Cette semaine à la vie en BD, on vous parle du code de la BD. Vous êtes à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous. Toujours un plaisir, évidemment, de vous retrouver pour parler 9e art, pour parler bande dessinée semaine après semaine. Et de mon côté, ce sera un plaisir, évidemment, d'aller creuser différents angles autour de la bande dessinée aujourd'hui. En deuxième moitié, dans le fond, ce sera le retour d'un de nos collaborateurs de la première heure, Stéphane Gravel, qui s'est lancé dans une expérience de recherche autour du manga. Il a déterminé que c'est un peu sa zone d'ombre en matière de lecture, de lecteur et de compréhension et de connaissance. Alors, il a décidé de se consacrer au fil des dernières semaines et au fil de l'automne à la lecture de manga. Alors, on va faire un petit bilan avec lui, un premier bilan d'étape, si on peut dire, donc de ses explorations. Évidemment, des explorations qui, pour vous également, pourront faire office soit de suggestion ou de confirmation si vous êtes déjà un aficionado de ce médium. Et pour la première moitié de l'émission, eh bien, on va aller jeter un petit coup d'œil sur la prochaine rencontre des rendez-vous de la BD qui se clôt à la Maison de la littérature avant de passer vers la bibliothèque Gabriel Leroy 2.0. Alors, la thématique qu'on explorera avec Michel Giguère, c'est pirouette et contrainte jouées avec les codes. Alors, on va voir de quelle façon, eh bien, on peut jouer, on peut s'amuser avec les codes de la bande dessinée. Alors, c'est menu pour cette semaine ici à La Vie en BD. Et oui, on l'a bien annoncé, il est avec nous en studio, donc l'animateur des rendez-vous de la BD, Michel Giguère, bonjour.
Bonsoir Raymond, un autre collaborateur de la première heure.
Oui, effectivement, BD. Des premières émissions. Alors, en fait, c'est un peu les collaborateurs de la première heure qu'on joint à chaque une fois par mois, à temps pour les rendez-vous d'ailleurs.
C'est parce que t'es poli que tu dis pas la ligue du vieux poil.
Aussi, mais je voudrais que je m'inclue là-dedans aussi, fait que je suis poli également envers moi-même, mais on s'est vu grisonner progressivement. Au fil des 13 saisons de La Vie en BD, ça c'est clair. Et en fait, Michel, tu as deux invitations à nous lancer, en fait. Avant de parler du rendez-vous de la BD de demain, j'aimerais qu'on fasse un mot aussi parce qu'on se recroisera pas en ondes avant cette activité-là qui aura lieu le jeudi 29 février. mais cette fois-ci, c'est du côté de la bibliothèque Étienne Parent, donc sur la rue Clémenceau à Beauport, dans le cadre d'une série dans par la Bibliothèque de Québec qui s'appelle les duos littéraires. Donc, Michel Rabagliati sera ton invité.
Oui, et là, sortez vos agendas pour noter ça. D'abord, c'est à Étienne Parent, à Beauport, ce qui est assez particulier. Ce n'est pas un mercredi, c'est un jeudi. Puis c'est la date facile à retenir. C'est une date qui revient aux 4 ans, le 29 février. Moi, je vais agir à titre d'animateur. Mais les duos littéraires impliquent évidemment deux auteurs. Et comme co-invité, Michel Rabagliati a choisi Jimmy Beaulieu. Alors, avec trois placoteux de même, j'ai jugé qu'on n'avait pas besoin de support visuel en supplément. Là. Donc, il n'y aura pas de projection d'image sur écran. Ça devrait quand même donner quelque chose de décontracté et très consistant tout à la fois. Élément très important là, par rapport au rendez-vous de la BD aussi, il faut réserver votre place.
Oui, et en fait, je fais une parenthèse. Je pense pas qu'ils se sont rencontrés régulièrement sur scène dans le contexte d'entrevues comme ça, Jimmy et Michel. Ça va être intéressant de voir vers où ils vont t'amener, parce que pour les avoir reçus séparément, c'est quand même des conteurs qui à la fois se racontent en bande dessinée, mais qui sont également capables d'amener des belles réflexions, des beaux propos sur scène. Est-ce que t'as choisi ta première question? Après ça, la question, ça serait si t'en auras d'autres par la suite, là.
C'est tout prêt. Moi, je suis prêt, mais c'est pas vraiment des questions. Je pose un sujet de conversation, puis jaser, là, tu sais, l'idée, c'est de les laisser discuter ensemble, et je pose des questions qui m'intéressent, pour lesquelles je suis très curieux d'entendre qu'est-ce qu'ils ont à raconter là-dessus.
Alors, donc, ça va être extrêmement intéressant, ça, et je pense qu'on peut rappeler la date, en fait, jeudi 29 février, donc on a encore le temps, mais comme tu dis, faut réserver d'avance, oui. Ça risque d'être plein, de toute façon, donc réservez d'avance et présentez-vous, évidemment. Et d'ici là, Michel, en fait, à demain soir, en fait, si on va dans un horizon un peu plus rapproché, c'est l'autre invitation, c'est les rendez-vous de la BD, et une soirée qui devrait être assez spéciale, d'ailleurs, pour toi, puisque, en théorie, si tout va bien, on touche du bois, du clap, bar ou tout ce qui est disponible à proximité, mais la nouvelle bibliothèque Gabriel Roy va ouvrir ses portes le 1er mars. Ça veut dire que les rendez-vous de la BD vont retourner au Bercail dès le mois de mars prochain. Donc, sauf en cas de force majeure, demain, c'est le dernier rendez-vous de la BD qui est présenté à la Maison de la littérature.
Exact. Puis, un dernier rendez-vous à la Maison de la littérature après, quand même, 10 saisons complètes. Tu parlais de cheveux gris tantôt, là, faut pas s'étonner, là. Mon passage à la Maison de la littérature a débuté donc en février 2019, il y a 5 ans. Ça va être spécial pour une deuxième raison aussi, ce ne sera pas capté et webdiffusé. Ça, c'est pour la première fois depuis la pandémie, en fait, depuis septembre 2020. La webdiffusion a été une opportunité exceptionnel, puis quand je dis exceptionnel, là, c'est le cas de le dire, puisque ça a pris une pandémie pour que ça advienne. Une opportunité, donc, de diffuser l'activité au-delà de la région de la capitale, puis en plus, les diaporconférences étaient visibles en rattrapage, et en passant, elles le sont toujours. Et c'est à partir de la page Facebook de la Maison de la littérature. Donc, le rattrapage permettait à quelqu'un qui habite pas à Québec ou qui est pris les mercredis soirs, il pouvait enfin assister, en tout cas, pas assister, mais au moins les visionner après coup. Sauf que, d'un autre côté, c'est un peu un soulagement pour moi, puisque j'aurais plus besoin de faire le grand écart entre deux auditoires de types fort différents. On s'adresse pas de la même manière à une assistance dans une salle à l'atmosphère feutrée puis aux lumières tamisées, là, composée de personnes qui se sont déplacées pour voir et écouter cette activité-là, d'une part, et par ailleurs des gens qui sont devant leur petit écran dans l'autobus ou en faisant la vaisselle en même temps, d'autre part. Alors, pour capter puis maintenir aussi l'intérêt de quelqu'un sur une tablette ou devant son ordi, il faut que l'animateur projette sa voix, il faut qu'il articule, et même qu'il sur-articule, il faut accentuer les intonations, accélérer le débit.
Oui, il y a un côté radio un peu aussi à travers tout ça.
Ah, c'est la même affaire, ouais, voilà. Autrement, c'est soporifique, tu ne peux pas parler normalement quand t'es sur des médias comme ça. Sauf que, pour les gens en salle, ça devait sonner un peu froid, distant. Tu sais, je me permettais à peine de prendre une gorgée d'eau, là. Fait que là, ça va décidément être plus décontracté.
Et justement, dans le fond, tu vas clore cette parenthèse. Enfin, ça peut paraître beaucoup 10-16 ans, mais sur presque une trentaine, c'est effectivement une parenthèse au final. Donc, et tu vas clore cette parenthèse-là à la Maison de la littérature sur un thème qui est relativement léger et qui convient parfaitement à l'atmosphère décontractée que tu veux recréer. Donc, c'est pirouette et contrainte, jouer avec les codes.
Oui, effectivement, tu as raison. Le terme, le verbe jouer est assez pertinent, assez fondamental. Je vais vous proposer des BD donc qui jouent avec les conventions propres au médium bande dessinée. Ça va donner quelque chose de parfois un peu technique quand même, mais surtout très ludique.
T'invites régulièrement, Michel, les BD-files à plonger dans la mécanique de la narration en images dessinées. Tu nous fais réaliser à quel point tel ou tel BDiste va utiliser efficacement, va utiliser judicieusement plein de procédés, de notions et de trouvailles. Donc, dans cette optique-là, donc comment ça va être différent demain soir?
Eh bien, habituellement, je montre comment les procédés se mettent au service de la narration. Alors que là, c'est plutôt la narration qui se met au service des procédés. Bien souvent, la scène est surtout un prétexte pour amuser le lecteur, pour le surprendre, le désarçonner, en virant la syntaxe du médium à l'envers comme un gant. On verra pas des exemples de mise en scène efficace puis de mise en page habile, mais plutôt des planches étonnantes où l'intérêt porte pas tant sur ce qui est raconté que sur la mise en scène elle-même, sur la mise en page elle-même, qui va être déconstruite ou détournée. En quelque sorte, le bédiste partage sa jubilation à explorer le langage, à transgresser les codes, les règles, les conventions de sa discipline.
Si on cherche à aider l'auditeur, auditrice, oui, à se représenter ça en esprit, as-tu quelques exemples concrets?
Oui, c'est ça, parce que ça, c'est un peu abstrait. Alors, le parfait exemple, pour ceux qui le connaissent, en tout cas, c'est Jean-Paul Hyde qui, en 2011, fait paraître un livre percé d'un gros trou, bord en bord, d'un couvert à l'autre. Hyde s'est imposé une contrainte abyssale, un défi à devenir cinglé, là, puisque tout le récit et toutes les planches tournent autour du fameux trou. Alors, c'est l'album le bien nommé « Le fond du trou ». Et ça me fait penser, en novembre dernier, le rendez-vous de la BD s'intitulait « Des planches pleines de bon sens » et pendant 90 minutes, c'était succédé à l'écran là, des exemples épatants ou bon d'autres qui étaient navrants parce qu'il y avait aussi des contre-exemples, là, des choses « voici ce qu'il ne faut pas faire ». Donc, des exemples où le sens de lecture était mis à profit ou représentait un défi de mise en scène, de mise en page. Et dans le thème de février, là, on est ailleurs. On est moins dans l'efficacité que dans la folie. Par exemple, dans Le fond du trou, là, un album que La Pastèque a réédité l'automne passé en couleur, l'anti-héros créé par Jean-Paul Hyde, Jérôme Bigras, rencontre un personnage de manga. Et les deux arrivent pas à se comprendre, leur dialogue a ni queue ni tête. Pas parce que l'un parle français puis l'autre japonais, mais parce que Bigras évolue de gauche à droite puis l'autre de droite à gauche. Donc, pour comprendre cette double planche-là, le lecteur doit la lire deux fois. Une fois de gauche à droite, il doit la relire de droite à gauche. Et là, tout d'un coup, non seulement ça fait un peu plus de sens, mais on comprend pourquoi les deux, eux, c'est impossible qu'ils se comprennent. Il va sans dire que les bulles également doivent se lire dans les deux sens dans cette séquence-là. Et c'est, ça explique entre autres pourquoi quand il parle, en fait, à chaque fois qu'il y en a un qui dit quelque chose, il dit « Voyons, pourquoi tu dis ça? Je viens de te poser la question. » Ou « Je viens de te le dire. Pourquoi tu me demandes ça? Je viens de te le dire. » C'est délirant. C'est délirant comme la plupart des extraits que je vais projeter sur grand écran demain.
Et on fait la parenthèse d'ailleurs, en fait, éditorial, mais si vous n'avez pas lu Le fond du trou, si vous n'avez pas parcouru cette BD-là, évidemment, profitez-en demain pour l'analyse, mais lisez-la aussi. C'est absolument délicieux comme procédé. Et pour revenir au rendez-vous de la BD, tu divises toujours tes présentations en sections, en sous-thèmes. Est-ce que tu as quelques exemples de sous-thèmes pour cette fois-ci?
Oui, ça commence avec, bon, je le disais un peu, fantasy en tout sens, un segment qui devient un genre d'épilogue au rendez-vous de la BD de novembre dernier sur le sens de lecture. Va suivre une partie sur, appelons ça, les personnages qui sont conscients de leur statut de personnage, qui vont, entre autres, interagir avec les bulles autour d'eux autres. Ils vont se mettre à triturer les bulles. Ils vont interagir avec les symboles graphiques autour d'eux ou avec leur créateur ou encore avec le lecteur. Encore une fois, Jérôme Bigras est le parfait exemple. Tu sais, tu disais qu'il fallait lire Le fond du trou. Le Jean-Paul Hyde nous a mis les larmes aux yeux avec le petit astronaute, là. Mais avec Jérôme Bigras, il m'épate tellement c'est brillant. Et puis, il y a un autre BDiste brillant, Marc-Antoine Mathieu, qui réalise une série géniale mettant en vedette un autre personnage conscient d'être un personnage, c'est Julius Corentin Hackfack. Et si Hackfack est confronté au renversement des codes de son médium, il y a un autre personnage qui, lui, pratique et même provoque le renversement des codes, et c'est l'inénarrable Achille Talon. En passant, il y aura un juste dosage de BD récentes et plus vieilles, puis de BD connues que les gens vont prendre plaisir à retrouver, et des trucs plus alternatifs que les gens, j'espère, vont prendre plaisir à découvrir.
Et profiter des listes de lecture qui sont générées par la suite d'ailleurs.
Oui.
Et si on parle de jouer avec le sens de lecture, donc des personnages qui savent qui sont des personnages, et un autre sous-thème?
Ben, un qui va s'appeler « Quand le décor devient un personnage ». Quand le décor devient presque un personnage à part entière, voire même des fois la raison d'être de la planche. Et ce thème-là amène notamment trois chefs-d'œuvre, disons, patrimoniaux. Premièrement, Little Nemo in Slumberland, par un autre génie, l'Américain Winsor McCay, qui crée des décors tantôt organiques et changeants, tantôt architecturaux. C'était une de ses forces, l'architecture à McCay. Deuxièmement, on reste aux États-Unis, Crazy Cat de George Harriman, et paradoxalement, ces paysages à lui sont dépouillés, souvent même minimalistes, surréalistes même, et pourtant, ils occupent une place considérable dans sa BD. Les décors dans Crazy Cat, donc je disais, sont surréalistes, puis d'une vignette à l'autre, ils se métamorphosent sous nos yeux, inexplicablement, là, c'est complètement absurde. Troisième chef-d'œuvre de la BD conceptuelle, ludique et exploratoire, la série Philémon par Fred, qui, tout au long de sa carrière, s'est autorisé une liberté totale. Tu sais, une liberté comme seuls les enfants s'accordent là, quand ils dessinent puis qu'ils racontent. Et ça, c'est vrai tant sur le plan du dessin que du récit, dans le cas de Fred. Les deux derniers sous-thèmes de la diaposconférence vont porter sur différentes formes de mise en abîme, puis finalement sur les illusions d'optique.
Et ben évidemment, tout ça est quand même intriguant je pense que ça va prendre beaucoup de sens. C'est toujours un peu le défi qu'on a à la radio d'évoquer sans les planches, oui. Au bout du compte. Et ce qui fait que parfois l'émission ici prend une forme d'invitation aussi à la lecture ou à tout le moins aller croiser ces titres-là en librairie ou en bibliothèque.
Une invitation au rendez-vous de la BD aussi.
Également par la bande puisque tu les projettes également. Donc oui. Ça va prendre tout son sens, je pense, à ce moment-là. Et Michel, à part ceux que tu as nommés jusqu'ici, j'ai envie qu'on reste dans l'invitation à la lecture. Est-ce que tu as d'autres titres auxquels tu vas faire appel, dans le fond, pour illustrer tes sous-thèmes, pour illustrer tes pirouettes?
Oui. Eh bien, on va voir Fab Caro, qui est, en passant, le nouveau scénariste d'Astérix, l'Argentin Ligné, avec sa série Macanudo, qui a été traduite à la pastèque, et puis, étonnamment, GF, oui, avec une mise en scène en trompe-l'œil très futée, qui est tirée du troisième tome de Liaison dangereuse préliminaire, que je me plais à analyser. Je pense que ça va surprendre les gens. Et, bien entendu, il va être question de la mythique rubrique à braque de Gottlieb.
T'as dû beaucoup t'amuser à préparer ce rendez-vous-là, sincèrement.
Oui, ben effectivement, il y a des fois on est dans des trucs très sérieux, mais je veux dire, je l'aborde quand même avec sérieux. Mais mon Dieu, quel plaisir. Puis j'espère que ça va être un plaisir communicatif.
Oui, ben je pense que oui. Puis le plaisir aussi de voir justement comment la bande dessinée a toujours le réflexe de jouer avec la forme. Il y a toujours des auteurs qui vont s'amuser. Puis je veux dire, tu vas chercher quand même loin. Je veux dire, Fred, Achille Talon, c'est pas il y a 10 ans. Donc ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu cette volonté laboratoire-là. Et je pense que je radote toujours cette formule-là, mais autant qu'on inventait les codes du médium, autant que les mêmes personnes s'amusaient à les débiner, dans le fond. Là.
Oui, et puis, comme tu dis, ben ça remonte même plus loin, ça remonte, tu sais, Little Nemo, c'est au tout début du siècle, et je vais même présenter Gustave Verbeek, qui a publié pendant quelques années juste avant Winsor McCay puis son Little Nemo, donc c'est encore un petit peu plus vieux. Et c'est des bandes dessinées comme Crazy Cat qui étaient d'avant-garde, qui étaient vraiment expérimentales à l'époque et qui sont toujours un siècle plus tard d'avant-garde. C'est même plus d'un siècle plus tard.
Donc, comme quoi, en fait, effectivement, les collections puis les prix patrimoine d'Angoulême, bref, ça prend tout son sens quand on voit aussi des titres comme ça qui restent actuels 100 ans plus tard, pratiquement.
Ça, je me fais toujours un point d'honneur de mettre en perspective. Tu sais, j'ai toujours un écran qui apparaît, c'est un peu running gag, là, mais qui dit « ce n'est pas d'hier » que je fais apparaître dans mon diaporama pour dire aux gens, pour rappeler aux gens « pensez pas que ça a été inventé il y a 15 ans ou 20 ans ». Tu sais, ça fait longtemps que ça se fait, même si vous le saviez pas toujours.
Et évidemment, j'espère vous avoir mis l'eau à la bouche. Et je vous rappelle, dans le fond, c'est demain, mercredi 7 février, 19h, à la Maison de la littérature. C'est pas mal la dernière fois aussi qu'on peut dire, si vous attrapez l'émission après demain, ben c'est disponible disponible sur la page Facebook.
Non,
c'est plus
ça, ça ne l'est plus.
C'est plus, c'est fini.
C'est ça, voilà. C'est d'ores et déjà fini.
D'ores
plus,
et déjà.
La saison sera pas entièrement la maison de la littérature.
Ouais, donc,
tant qu'à faire, on...
Donc, faut se présenter sur place.
Voilà.
Ça veut dire que si on nous prend après, c'est fini, on a raté, voilà. Et il faut le remettre les mercredis subséquents à son horaire. C'est présenté par la Bibliothèque de Québec, c'est gratuit, l'accès est libre. Et encore une fois, en fait, il y a des tirages là, pour ceux qui vont se présenter sur place.
Ben, la librairie Pantoute, fidèle partenaire des Rendez-vous de la BD, qui nous a encore fourni un album à faire tirer, puis c'est le cas là, pour chaque rencontre de toute la saison.
Alors, pour les Rendez-vous de la BD, dernier à la Maison de la littérature, on se présente. Mais par contre, pour l'autre activité qu'on a mentionnée, jeudi 29 février, avec Jimmy Beaulieu et Michel Rabagliati, et là, faut réserver du côté de la bibliothèque de Beauport, donc Bibliothèque Étienne Parent. Un beau mois de février, au final?
Oui, si j'avais juste ça, ce serait pas pire, mais c'est bien garni.
On en a toujours plus. Alors, ben voilà, donc c'était Michel Giguère, animateur des Rendez-vous de la BD. Raymond Poirier toujours avec vous jusqu'à au fil des 40 prochaines minutes où on continue de parler bande de dessinée et je me disais en fait évidemment j'étais là en esprit la semaine dernière mais là je suis là en direct cette semaine. Alors peut-être une opportunité simplement de vous rappeler si vous l'avez échappé pour une raison nébuleuse le palmarès du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, une belle édition qui a pas battu les records d'ailleurs on nous parle de quelques 200 000 personnes qui étaient dans les rues d'Angoulême au fil des 5 jours du festival, toujours des belles présences internationales. Une édition, en fait, vous le saviez d'ailleurs, où le Québec et le Canada, tout particulièrement, étaient à l'honneur avec un pavillon dédié à la bande dessinée canadienne avec présence de 70 auteurs. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est la première fois où on avait des auteurs qui représentaient l'ensemble des provinces et territoires du pays, à l'exception de Terre-Neuve. Mais bon, on va se donner... on va laisser passer cette exception. Mais ça a été vraiment, à tout le moins, en fait, donc une présence, je dis pas d'auteur physiquement de Terre-Neuve, mais dans l'exposition, la BD de l'ensemble du pays était représentée. Alors, pour les gens qui étaient du côté d'Angoulême, c'était vraiment une belle opportunité de faire une forêt à l'intérieur de la bande dessinée canadienne, de découvrir ce qui se fait au Yukon, au Nunavut, en Colombie-Britannique, dans les prairies maritimes et le reste. De voir peut-être aussi que, du côté québécois, on peut avoir un sentiment un peu monolithique, donc, entre la BD francophone québécoise et la BD canadienne anglophone. Mais finalement, ce n'est pas le cas, mais pas du tout. Évidemment, il n'y a pas non plus que la BD francophone québécoise qui est vivante, mais il y a aussi une bande dessinée acadienne avec qui c'est peut-être plus difficile parfois d'avoir des liens, ne serait-ce que pour les raisons, des motifs de distribution et de politique du livre, qui apporte certaines complexités relativement à l'accessibilité de certains produits culturels sur les étaux de nos libraires. Vraiment, en fait, de voir cette bande dessinée mise en scène, à la fois fruit d'auteurs de toutes origines également, et entre autres où il y avait une fort belle place là, pour la bande dessinée d'origine autochtone, pour moi, à tout le moins, une belle opportunité d'aller voir qu'est-ce qui était produit dans le contexte cette gamme de créateurs-là aussi. Et de façon plus large, la bande dessinée canadienne, on dirait qu'en dehors de l'Ontario, en dehors de ce qui se fait chez certains éditeurs, on oublie un peu d'avoir le réflexe de regarder de ce côté-là. Alors, en ce qui me concerne, ça m'a mis clairement la puce à l'oreille. Je fais la parenthèse sur la bande dessinée canadienne. Mention aussi, évidemment, pour le festival, toujours des belles expositions de ce côté. En fait, la France, à chaque fois qu'on va du côté d'importants festivals comme Angoulême, on voit à quel point la bande dessinée est mise de l'avant et considérée comme un art entier et complet et a des budgets pour se mettre en scène et se scénariser dans des expositions, ce qui n'est malheureusement pas le cas ici. Et éventuellement, ben, en fait, j'espère qu'on pourra au Québec, qu'on pourra au Canada offrir des expositions avec une mise en scénographie, avec un contexte aussi riche que là-bas, et pas seulement dans une petite salle, mais des expositions qui prennent de l'espace, qui prennent de la place. On a été aussi fascinés par le concours des écoles et de voir, en fait, des étudiants, étudiantes du primaire, même dans des cas, qui sont exposés à une grande variété de bandes dessinées dans un contexte scolaire et qui offre dès le premier cycle du primaire, en fait, des explorations stylistiques qui vraiment sont extrêmement riches et surprenamment maîtrisées. Dans certains cas, il y avait des petits bijoux dans ce qui était offert, et je suis juste sur le primaire et on pourrait continuer au secondaire, donc qui encore là nous montre qu'il y a une valorisation importante de la bande dessinée à l'intérieur de plusieurs pans de l'éducation et de la société franco-belge. Alors on a encore peut-être des croûtes à manger ici de ce côté, mais je pense qu'on a une belle bande dessinée à mettre en valeur, à faire découvrir. Alors, ben pourquoi pas en profiter pour nous aussi mettre un peu plus d'efforts. Donc, un petit commentaire éditorial. Alors, je vais rapidement avec les prix, puisqu'il me reste essentiellement 1 minute 30, mais bon, c'est une énumération, c'est toujours un peu plate. Alors, Fauve d'honneur qui a été décerné à Moto Agio, qui avait d'ailleurs une très belle exposition. Elle a révolutionné, elle, le shoujo manga au début des années 70. Alors, peut-être quelqu'un, Stéphane Gravel, que tu devras lire dans les prochaines étapes de tes explorations. Stéphane, qui est dans les parages du studio pour sa chronique dans quelques instants. On parle également du Fauve d'or, meilleur album qui a été remis à Daniel Klaus pour Monica chez Delcourt. 6 ans de travail, retour de l'auteur multiprimé de Ghost World et d'Annie Boring, qui puise dans ses souvenirs personnels ce récit, l'histoire de Monica, dont l'abandon fut traumatisant. Fauve spécial du jury Handbook, tome 1 de Sophie Dark chez L'Apocalypse, qui l'a remporté. Fauve de la série, c'est The Nice House on the Lake, donc deuxième tome d'Alvaro Martinez Bueno, James Tinian 4 et traduction de Maxime Le Dain. Et pour l'anecdote, en fait, c'est une série de type américaine, mais qui a été adaptée au format comics traditionnel. Donc, visiblement, c'est un choix d'édition qui l'a servi. Fauve Révélation, c'est L'Homme gêné de Mathieu Chiara. Et Fauve des lycéens, Le visage de Paville de Jérémy Perraudeau. Sinon, on passe au Fauve Patrimoine, qui est 4 japonais à San Francisco de Henry Yoshikita Kiyama, donc autre mangaka. Et l'éco-fauve qui a été remporté par Frontier. Et ben voilà, pour la ronde contrition également, le Fauve polar. Donc vous irez évidemment chercher la liste si vous ne l'avez pas encore vue. Ça reste, comme à l'habitude, ce type de liste-là, des belles suggestions de lecture et de découverte. Et ben peut-être qu'on se fera de notre côté en cours de route des petites banques de suggestions aussi sur d'autres types de bandes dessinées, des découvertes que, ben, de mon côté, j'ai eu l'occasion de faire en soutien un peu à cette délégation canadienne qui était fortement présente là-bas et que j'ai eu l'opportunité de rencontrer, de discuter aussi autour de la BD canadienne. Alors, ben, vraiment une expérience assez riche que j'espère me donner l'opportunité de vous partager là, d'ici la fin de la présente saison de La Vie en BD. Alors voilà pour ce petit clin d'œil angoulémois. Toujours à la vie en BD, toujours avec Raymond Poirier. Et Raymond Poirier est désormais toujours avec Stéphane Gravel. Bonjour Stéphane.
Mm-hmm. Allô, allô.
Alors, Stéphane, en fait, au fil de l'année dernière, en fait, on se disait qu'il y avait un plaisir, évidemment, à relire des classiques, à retomber dans la bande dessinée franco-belge, à retourner dans les lectures nostalgiques de notre enfance, à continuer de découvrir et de lire les milliers de publications qui sont faites dans l'horizon franco-belge année après année. Mais en même temps, en parallèle, t'avais soif de découverte, t'avais soif d'aller chercher dans tes zones de gris, dans les zones que tu connais connais un peu moins, que tu maîtrises un peu moins ou pas du tout.
Pas un peu, mais pas du tout.
Et dans cette ligne-là, dans cet horizon noir, enfin, on pouvait parler avec toi de comics, on pouvait parler avec toi de BD québécoise, de BD franco-belge, mais le manga, non.
Le manga, j'y connaissais rien. Je connaissais, j'entendais parler des classiques qu'on voit comme Naruto et compagnie. Ça m'intéressait pas, j'avais pas le goût de lire de manga. Pour moi, c'était... J'avais des préjugés, probablement. C'était une sous-BD, comme la BD a été longtemps une sous-littérature. Puis, je vais appeler ma chronique, c'est de la faute à Aline, parce que c'est de la faute à Aline qui m'a mis... C'est Aline qui m'a mis une BD entre les mains de Junji Ito, qui est dessinateur, je veux dire, créateur mangaka.
Je pense que tu as des prémices à placer avant qu'on tombe dans
Avant, là, moi, j'y comprends rien. Puis même quand on parle des genres en manga, j'y comprends rien. Ça vous donne une idée, là, comment, là, je pars de zéro, là. Je vais lire un shonen ou un shoujo ou un seinen ou... Je m'oriente pas là-dedans, mais pas du tout. Ensuite, quand j'ai lu ce qui pouvait être du manga, ben c'était du Taniguchi, qui était édité chez Casterman et qui était édité dans le sens de lecture conventionnel avec lequel j'ai appris à lire depuis ma tendre enfance. Donc, c'était du manga à cause que l'auteur est un japonais et un mangaka, mais ce n'était, j'avais pas encore touché au manga en lisant cette BD-là, là. Quand je suis rentré dans l'univers de Junji Ito, j'ai comme frappé un mur. Il s'est comme passé quelque chose. D'abord, c'est un auteur qui a un univers extrêmement troublant. Il réussit à dessiner l'horreur de façon assez extraordinaire, assez fantastique. Mais bon, on parle d'horreur, mais c'est une forme d'horreur qui est très, très, très particulier. C'est pas gratuit. C'est très près du quotidien. C'est très près des angoisses, des choses du quotidien. Il y a des trucs qui se transforment et ça crée des histoires d'horreur. Il fait beaucoup d'histoires courtes qui sont extrêmement punchées. Et il y a un dessin qui, malgré, pour mon cas, qui est assez difficile à y adhérer en partant, devient extrêmement narratif et extrêmement bien fait. Et la fluidité de ses histoires, la façon dont il réussit à amener des choses qui n'existent pas, qui réussit à rendre en image un univers complètement féerique, horrifique, ça devient extrêmement fascinant. Et ce qui m'a le plus touché de cette lecture-là, c'est que j'ai eu le goût d'en lire un, d'en lire deux, d'en lire trois. Puis j'ai embarqué dans un monde qui me semblait tout d'un coup être plus grand que le monde réel. C'est-à-dire que son imagerie est tellement forte qu'elle réussit à laisser une empreinte dans tes souvenirs qui te laisse, même après la lecture, dans un mini sentiment d'horreur.
C'est pas pour rien. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs BD. En fait, du moment où on dirait en entrevue, on croise un auteur BD qui s'est frotté à l'horreur, il cite Junji Ito. Je pense que c'en est un qui réussit le mieux à travers un médium où c'est pas nécessairement facile de créer un sentiment de malaise, un sentiment de peur. Lui, il réussit à le créer et coup sur coup, sur coup, sur coup. En fond, ce sentiment-là est tellement important parce que sinon, c'est pas véritablement de l'horreur sans ça.
Non. Puis on s'entend, de dessiner l'horreur, c'est dangereux aussi à quelque part parce que l'horreur fait partie, pour moi, l'horreur fait partie beaucoup de l'imagination. Puis qu'est-ce qu'on s'imagine de l'horreur? Je trouve que l'horreur fonctionne très bien dans la littérature parce que il y a un travail de la part du lecteur qui est grand, puis c'est ça qui fait qu'on embarque dans une angoisse. Au cinéma, l'horreur est plus va plus être de faire des peurs, de faire des sauts, de créer un suspense, de faire augmenter les pulsations cardiaques.
Ouais, mais dans l'horreur récente, mais quand on retourne à la base de l'horreur, c'était d'abord et avant tout des ambiances, c'est d'abord et avant tout un malaise.
il n'y avait pas d'argent.
Mais je trouve que ça reste assez efficace. Et ce qui est intéressant dans Ito, parce que tu dis, en fait, évidemment, il y a beaucoup d'histoires de courte forme, mais son chef-d'œuvre, c'est quoi, à peu près 600 pages, Spirale?
Spirale, c'est 600 pages. Spirale, je t'avoue, là, je suis dedans. Je suis en train de lire Spirale. C'est très psychologique. C'est très prenant aussi. Il y a Tommy aussi, qui est une BD de 400-500 pages, qui est assez forte, avec des personnages extrêmement bizarres. Mais là, Spirale, on entre vraiment dans un univers qui a une forme de lourdeur, je te dirais, parce qu'on est habitué avec des histoires courtes qui sont des espèces d'anecdotes horrifiques, mais là avec Spirale, on tombe vraiment dans une histoire qui est extrêmement extrêmement solide et extrêmement intéressante. Puis ça m'amène à autre chose, Raymond, qui est pas là, mais dans la bande dessinée, j'ai commencé à fouiller après, puis à lire d'autres choses en manga, une fois que j'ai réussi à lire à l'envers. Là.
Oui, c'est dur de pogner la twist. J'ai toujours le choc à chaque fois que je commence un manga, mais ça passe. À longue, ça finit par
ouais,
passer.
J'ai reculé un petit peu dans les classiques pour essayer de comprendre d'où ça venait, là, parce que moi, mon univers de dessin animé japonais, ben, ou de première lecture de manga, tiens, il y avait Akira que j'ai oublié, qui aussi était édité de façon lecture traditionnelle. Il y avait eu un film d'animation qui était assez solide aussi. Mais sinon, il y avait tous les petits trucs là qu'on avait à la télévision lorsque j'étais jeune, les mini-fées et compagnie.
On a grandi dans cette culture-là. Ben, notre génération, à tout le moins, et plus, parce qu'on n'est pas exactement de la même non plus.
Absolument. Puis il y en a un qui était un maître de tout cet univers-là. C'est Tezuka. Tezuka a un éventail extrêmement large de bandes dessinées. On dit un peu que c'est le Disney du manga, là. Et puis, moi, je connaissais Astro Boy, et c'est des choses un petit peu que je me rappelais avec des souvenirs, entre guillemets, d'enfance, là. Puis là, je voyais partout qu'il fallait lire Ayako, de cet auteur-là. Et là, j'ai plongé dans ça, un univers très manga, là, avec les personnages avec le petit nez pointu, puis les grands yeux, puis les pieds pas d'orteils, puis tu vois le genre un peu, là. Mais là, je suis rentré dans un monde qui m'a fait, encore une fois, je me suis dit... Quel miroir d'un peuple et quel miroir d'une situation et d'un monde politique que ces auteurs-là ont réussi à faire avec un dessin aussi naïf, on peut dire ça, ou aussi enfantin. C'est quelque chose qui m'a rappelé un peu Mouse. Quand on tombe avec Mouse, avec les cochons, les souris, on s'attend pas à entrer dans un monde qui est aussi sérieux et qui soulève autant de questions. C'est un peu sournois, hein? Parce que c'est des petites bobettes, c'est des bêtes des champs, puis à un moment donné,
Le sérieux nous rattrape, mettons.
Le sérieux nous rattrape, puis on embarque dans une histoire qui est extrêmement fascinante. Dans le cas de Ayako, tu sais, j'aime pas ça raconter l'histoire, mais il y a un reflet là, d'une culture japonaise d'une époque en crise qui est extrêmement touchant, qui est extrêmement troublant aussi. Et c'est l'histoire d'une relation entre une famille et une jeune fille qu'ils veulent cacher pour cacher certaines choses qui ont pu se passer dans leur famille. Donc, tout le long de cette aventure-là, tu vis l'aventure d'une jeune fille qui est séquestrée pendant 400 pages avec des parents qui cherchent toujours à avoir les meilleures apparences possibles pour garder l'honneur d'une je ne sais pas quoi dans un Japon qui est en train de s'écrouler. C'est tellement wow, c'est tellement touchant, cette BD-là. Puis Puis je m'y attendais pas à ça. C'est pas ça que j'allais lire, là. Tu regardes la petite couverture, puis tu dis, ah, OK. Mais c'est violent aussi, en même temps, même si c'est pas raconté de façon violente, c'est que il y a un fond de violence et de tragédie là-dedans qui est extrêmement, c'est extrêmement déroutant et c'est extrêmement touchant.
Et puis c'est encore là, ça me fait rire parce qu'on revient, en fait, le premier titre qu'on mentionnait, c'était Naruto et ces choses-là. Genre, on est tellement loin et on a tendance des fois à avoir une vision un peu monolithique au bout du compte du manga, alors que quand on creuse, on se rend compte que il y a autant de genres, il y a autant d'auteurs, il y a autant de et qu'on creuse vers et on peut retracer des œuvres un peu comme Ayako, comme Ito et comme d'autres que tu vas nous citer aussi, parce que visiblement t'as bien débuté ton exploration là, vers des essentiels.
C'est un amène l'autre et un amène l'autre et un amène l'autre, puis comme je me disais à moi-même, c'est la découverte du manga par un amateur de franco-belge qui est un peu un bon bonhomme croulant, qui aime beaucoup lire mes grands classiques, puis m'amuser dans une BD que je connais, avec laquelle je suis à l'aise, avec laquelle je comprends les codes, dans laquelle je connais la société, je connais ceux qui l'ont fait, je connais plein de trucs. Là, je rentre dans un univers d'un monde que je connais même pas, parce que je suis pas quelqu'un qui est amateur de trucs japonais. Je connais peu l'histoire du Japon. C'est un peuple qu'on connaît peu, c'est une culture qu'on connaît peu. La relation entre les hommes et les femmes, on connaît pas ça vraiment. Le Japon du Moyen Âge, on le connaît par des grands films qu'on a vus au cinéma, mais j'ai jamais étudié. Et là, tout d'un coup, j'ai eu le goût d'aller essayer de chercher c'est quoi. Qu'est-ce qui se passait, où on est.
Oui, de pouvoir contextualiser, parce que veux pas, ben, comme tu disais, dans le fond, la littérature, la bande dessinée, le manga, c'est le reflet d'une culture. Donc, nécessairement, ben, en lisant un truc comme Ayako, qui est ancré dans une réalité sociale, sociétale, ben, t'as envie, comme lecteur, de dire, ben, OK, je comprends, je vis une émotion, j'ai besoin maintenant de la contextualiser dans l'histoire, dans la réalité de l'époque, pour pouvoir comprendre la portée peut-être aussi de ce travail-là. Ouais.
Puis je reviens à l'idée du manga. Le manga, pour moi, c'était qu'une seule chose. C'était les petits livres entre guillemets jetables, là, qui paraissent à une vitesse folle, avec un dessin qui, pour moi, est un dessin qui était inachevé pour la rapidité. C'est un auteur qui travaille avec une colonie d'assistants pour pouvoir produire sur un truc en papier journal. Puis pour moi, le manga, c'était ça, puis ça finissait là. Je suis un peu niaiseux, je dois avouer. J'ai jamais pensé qu'il pouvait avoir des auteurs, des mangaka qui sont vraiment des auteurs de bande dessinée, mais parce que c'était pas vraiment édité, parce qu'on les a pas vus passer, parce que quand la mode du manga est arrivée dans les années, à la fin des années 70, début des années 80, on a boudé beaucoup le manga. C'était des éditeurs qui étaient des fans, puis qui connaissaient le Japon, qui ont commencé à ouvrir des maisons d'édition à Paris pour faire les traductions. Mais le manga dit conventionnel, Naruto et compagnie, est arrivé en troc, en camion. Les librairies ont été submergées par du manga. Le manga a un peu pris une part de marché
importante
de la bande dessinée. Donc, les vrais amateurs de bande dessinée comme moi boudent le manga parce que ça enlève une place. Mais c'est pas ça du tout. Ce que je découvre là. Si on reste dans le manga japonais, il y a l'avant et l'après Hiroshima aussi.
Hein? Oui, effectivement. Qui a été un moment assez marquant. D'autant dans leur histoire, parce qu'ils l'ont vécu. Je veux dire, c'est sur eux que c'est tombé, cette bombe-là.
Ils ont quand même eu une bombe sur la tête.
Là. Exact.
Il y a un grand champ. Puis on le sent dans le malaise de la société japonaise des années 60, écrite et racontée dans les mangas que j'ai lus. Il y a une manga de Kazuo Kamimura. Excusez-moi, c'est mon côté complètement dyslexique. Peut-être pour ça que j'ai de la misère avec l'envers, là. Le Club des divorcés, c'est une histoire... D'abord, le dessinateur est un, est un ancien dessinateur de pub, un ancien dessinateur de mode. Il y a un trait qui est extrêmement précis et qui va à l'essentiel. Ça me rappelait un peu quand on parlait de... Ben, c'est un peu comme la calligraphie japonaise où on réussit avec deux traits à faire comprendre
Oui, avec beaucoup d'expressivité.
Et là, cet auteur-là a un dessin qui est très graphique, très beau, à mon sens, et avec une narration qui, encore une fois, est extrêmement fluide et extrêmement intéressant. Et là, encore une fois, c'est la relation homme-femme au Japon dans les années 60. Les clubs des divorcés, c'est des petits bars tenus par des femmes qui vont accueillir les hommes qui ne sont plus avec leurs femmes. Donc, les femmes sont des hôtesses, c'est un peu on comprend pas trop comment ça fonctionne. Mais là on parle de relations homme-femme, on parle de relations sexuelles, on parle du pouvoir de l'homme sur la femme, la libération de la femme pour essayer de prendre son autonomie à quelque part là-dedans, d'arrêter d'être celle qui est soumise à l'homme. La femme, dans ce que j'ai lu, on parle d'Ayako, et là on parle du club des divorcés. La place de la femme dans ces bandes dessinées-là est très, 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 très dure. C'est-à-dire que nous, on est une société qui, surtout aujourd'hui, là, je veux dire, aujourd'hui, l'égalité homme-femme, en tout cas pour moi, dans ma tête, puis dans ma façon dont j'interagis avec les femmes, c'est des relations d'égal à égal. C'est sûr que si on recule un peu, on va pas loin que la femme avait pas le droit de vote ici non plus, là. Mais quand on tombe dans ce Japon-là des années 60, la femme, ce n'est qu'une servante. Elle ne va vivre qu'au crochet de son homme, qui, lui, va travailler des heures, des heures et des heures et des heures, sera jamais là, et va finir ses journées de travail à aller boire dans un petit club quelque part, et revenir et avoir une relation absente avec la dame qui est chez lui. Et ces relations-là avec les femmes, ils vont les avoir justement dans les clubs où ces jeunes dames-là qui veulent essayer de s'émanciper vont devenir les hôtesses, puis vont avoir des conversations avec les hommes qui vont sembler être plus modernes comme relation homme-femme que la relation qu'ils ont chez eux. Mmh. C'est quand tu regardes cette histoire-là, tu te dis, c'est une bande dessinée, ça?
Au côté social, c'est encore là pour comprendre le phénomène, pour l'explorer, pour voir. L'auteur, c'est vraiment immergé dans son époque ou dans cette époque-là pour.
Oui, puis on arrive avec une notion que je vais appeler une notion d'auteur où le mangaka ne va pas que raconter des histoires, raconter l'histoire ou faire des trucs fantastiques ou créer des personnages un peu comme les super-héros américains dans le fond, mais là on arrive à une bande dessinée qui est beaucoup plus personnel.
Et en même temps, tu parlais du style pictural, de la netteté du trait, ben on imagine aussi que dans une BD qui est basée au bout du compte sur le relationnel, ben ça devient important d'avoir cette expressivité-là dans les visages, dans les expressions. Donc on est dans l'intimité de ces gens-là, au bout du compte, on partage un moment d'intimité, donc faut réussir stylistiquement aussi à nous y amener.
Oui, puis c'est fait avec un minimum de traits. Contrairement à Ito, dont on parlait tout à l'heure, il est pas du tout dans l'économie de traits. Il y a du trait, ça fourmille de traits, et c'est ça qui crée justement un sentiment où t'as l'impression que quand tu lis une image, tu dois défaire des nœuds, tu dois démêler un peu le trait, t'as un travail qui est très actif pour essayer de comprendre vraiment l'image, et ça fonctionne parce que ça fait fonctionner le cerveau, on décode, tandis que ici avec le club des divorcés, là c'est des lignes, c'est le pinceau, c'est la ligne, c'est la finesse, c'est quand même pas mal.
Et tu parles de regard sur la vie, sur l'humain, et je vois le temps qui file aussi de notre côté. Est-ce que tu as envie de nous parler un peu de Yoshihiro Tatsumi?
Oui, absolument, absolument. Ça, c'est, lui, ça a été un des premiers à amener un nouveau genre, si on veut. C'est que, pardon, dans le manga, il a amené ce qu'on appelle le Jekiga. Ah. Encore.
T'en connais un peu plus que moi.
C'est fou comment on compartimente oui. tout dans le manga. Tout est un genre.
Et lui, il y a un genre pour tout et on adapte. Un peu comme en musique, dans le fond.
Ouais,
écoute la popcore soft, néo.
Et ça, c'est justement le début des auteurs des mangaka qui se sont révoltés un peu contre le manga dit aussi conventionnel qui était celui de faire des histoires de tout ce qu'on connaît, là, d'adolescents, de robots. Et on a commencé à faire des trucs beaucoup plus autobiographiques, beaucoup plus centrés sur ce qu'ils vivent et où on raconte les choses comme elles sont. C'est-à-dire que l'auteur va raconter en histoire courte des épisodes de trucs qui se passent à Tokyo, des gens au chômage, des personnalités avec des gens avec des problèmes financiers, des gens traumatisés par la guerre ou c'est un Japon qui se fait prendre en main en tutelle par les Américains. C'est tout ce qui va mal que ces auteurs-là ont décidé de raconter et d'arrêter si on veut de juste faire du rêve et juste faire de l'esbrouffe autour de leur récit. Et lui, ça a été un des premiers à faire ce genre de bande dessinée-là, et c'est extrêmement solide. C'est pas jeune, hein? Ça reste des BD des années 60, 70, 80, lui peut-être jusqu'à 90. C'est pas des trucs d'aujourd'hui là, que je vous raconte là. Je vais y venir à un moment donné, mais là je suis pas rendu là. Puis cet auteur-là m'a touché beaucoup je me suis senti un peu parfois comme si, j'aime pas comparer, mais ça aide des fois à comprendre, un peu quand on entre dans certains univers de Will Eisner où on est dans le New York de la petite cuisine puis des poubelles qui traînent dans la ruelle là. Lui il raconte le Japon un peu de cette façon-là, puis il va aller jusqu'à raconter sa vie en manga où il raconte toute son histoire, ses déboires, comment ça a été difficile pour lui de faire ce type de bande dessinée-là, comment c'était dur économiquement. Et ce qui est intéressant de cet auteur-là, encore une fois, du type de BD qu'il a amené, c'est que c'est un manga qui n'est pas fait avec des assistants. Ils font eux-mêmes leurs dessins, ils font eux-mêmes leur bande dessinée au complet. Ce qui fait que c'est pas quelque chose qui va paraître de 300 pages par semaine, comme on peut voir parfois.
Il y a un délai un peu similaire à ceux qu'on connaît.
Exactement. Et on est plus près d'une bande dessinée. Conventionnel, mais c'est conventionnel
c'est
pour eux. Donc,
c'est ça. En fait, d'une bande dessinée tout court, mais dans l'esprit du franco-belge, en termes de structure de création.
On est moins dans la machine. On est plus dans celui qui fait la BD avec ses idées à lui et sa démarche à lui.
Mais ça semble être pas mal ça, d'ailleurs, vers quoi tu nous amènes de Tatsumi à Ito, dans le fond, des gens qui sont vraiment avec une création qui est alignée, soit en termes de récit, soit en termes de plume, soit un peu des deux, un peu en dehors d'un système un peu d'édition à la chaîne, dans le fond, comme on s'imagine aussi que c'est de ce côté-là.
Ben, je cherchais à pas prendre le chemin qui m'était facilement tracé. Bon. Il y a des gens comme Édouard de la librairie Prends-Tout qui connaissent beaucoup le manga, qui m'ont aidé à m'orienter, puis à chercher, puis à trouver des lectures. Mais je dois avouer franchement que j'ai quand même travaillé assez fort pour trouver des titres intéressants, puis pour lire des choses parce que je connais pas. Fait que, mm-hmm. Je pars pas avec « Ah, il faut que je lise ça », je pars de zéro. Mais en même temps, ils sont pas si faciles à trouver que ça. ces BD-là. C'est pas Les Arts Noirs, la petite maison d'édition qui va éditer du manga de ce style-là.
C'est beaucoup dans la nouveauté, souvent.
Ils vont chercher quand même des trucs en arrière. Mais on confond souvent. Est-ce que c'est une nouveauté? Ça peut être écrit dans les années 60 puis être traduit pour la première
Effectivement.
Fois aujourd'hui.
C'est comme par exemple pour Yoshiro Tatsumi, mais ça c'est chez Cornelius qu'on va les trouver. Il y en a certains qui... Le Club des divorcés, c'est peut-être un petit peu... faut creuser un peu pour trouver les éditeurs, pour les retracer. Mais visiblement, dans le fond, si ces albums-là, en fait, donc le Club des divorcés, on l'a mentionné.
C'est chez Kana, je crois.
Kana, Ayako, donc de Osamu Tezuka, ou encore l'œuvre de Junji Ito, dans le fond, ça devient des portes d'entrée intéressantes pour toi, et ça peut devenir aussi des portes d'entrée intéressantes pour qui longue beaucoup dans la bande dessinée franco-belge et n'a pas encore, justement, ouvert la boîte de Pandore
Exactement.
Du manga.
Mais c'est assez à mode, là. On en voit beaucoup. Les maisons d'édition commencent à se réintéresser au manga, à en faire de beaux livres aussi, parce que nous, on a tendance à aimer le livre un peu objet. Hein? Donc, exemple, chez Tezuka, chez Delcourt, c'est une série de bandes dessinées qui est extrêmement... C'est une extrêmement belle collection. Là. Ce sont des belles BD. Chez Cornelius aussi, c'est des belles BD. Mais c'est cher.
Alors, le portefeuille saigne parfois. Stéphane Gravel, dans le fond, j'ai l'impression qu'on est en début de parcours, donc on aura l'occasion de continuer un peu à jaser de ce parcours de découverte que tu t'es imposé. D'ici là, merci beaucoup pour cette demi-heure avec nous.
Merci, vous aussi.
Et c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro, c'est un plaisir d'être avec vous. Évidemment, la semaine prochaine, on passe l'heure avec Martin PM pour parler BD documentaire et scientifique. Et d'ici là, passez, vous également, une excellente semaine.